Alors bonsoir, bienvenue à tous et à toutes qui êtes donc en masse, vraiment, il faut le dire aux auditeurs, dans cette salle Cantor remplie à ras-bord pour la présentation de soirée des saisons artistiques de nos partenaires. Bonsoir Caroline.
Bonsoir.
Alors tu vas un peu animer cette soirée avec moi. Donc moi je représente plus Transistor et toi Caroline, le club en sortie. Alors normalement, vous avez l'habitude de cette salle Cantor et de quelqu'un qui vient vous souhaiter la bienvenue et qui vous demande d'éteindre votre portable avant de vous souhaiter un bon spectacle. Alors ce soir, pas de spectacle. En tout cas, c'est pas prévu. Je sais pas si mes invités ont prévu de mettre en scène leur présentation. Mais en tout cas, avec Caroline, on vous promet, on n'a pas prévu ni de chanter ni de faire des claquettes pour cette présentation. Et en fait, c'est peut-être mieux pour vous. Donc pas de spectacle, vous l'avez compris. En revanche, un beau programme. Puisque nous allons parcourir avec vous toute la programmation des scènes, on va dire, les plus importantes du spectacle Vivant à Lyon, puisqu'ils sont là, c'est vrai, on peut leur faire cette fleur-là, et en tout cas les remercier. Alors, pas de spectacle, mais vous pouvez tout de même éteindre vos portables. Voilà. Beau programme, et pour feuilleter donc cette programmation, je vous demande d'applaudir Maud Rataji et Claire Grenier du Théâtre des Ateliers. Donc alors Maud Rataji qui est la secrétaire de direction et puis la responsable presse, c'est donc Claire Grenier qui est là. Applaudir aussi Alexandra Soquet pour le théâtre de Vénissieux. Pour le théâtre des Marronniers, c'est Vincent Fleureau ici qui vous parlera donc de sa structure. Et pour en scène, c'est Lambert de Warumé, ce que vous connaissez bien, qui vous parlera de l'association en scène. Donc, alors dans une heure environ, vers 20h, nous accueillerons également... Oui, excuse-moi Lambert, ce sera coupé, on mettra tes applaudissements au bon moment. Et dans une heure environ, on accueillera aussi Pierre-Henri Alquier, que vous applaudirez donc quand il arrivera. Voilà, c'est moi qui dis de couper les portables et c'est le mien qui sonne. Dans une heure environ, donc Pierre-Henri Alquier, le responsable marketing de l'Opéra de Lyon, se joindra à nous. Il vous présente ses excuses. Il avait une réunion pour la présentation d'un spectacle ailleurs et il sera donc là pour vous parler d'opéra, de concert, de ballet et d'autres choses. Alors au théâtre ce soir, c'est donc les théâtres eux-mêmes que je vous propose de voir. Et on va donc pousser avec eux leurs portes et on va passer un moment culturel et divertissant en leur compagnie. En tout cas, ils vont nous montrer que dans leur structure, on passe des bons moments et on va voir des bons spectacles. C'est ça en gros. Hein. Voilà. Alors à Transistor, votre web radio préférée, bien sûr, nous sommes très heureux de vous proposer cet événement. Et c'est l'occasion pour vous de découvrir la richesse et la diversité du spectacle à Lyon. C'est l'occasion également pour les théâtres de vous faire découvrir leur lieu, leur programmation, mais également les offres réservées aux étudiants, puisque souvent elles sont très avantageuses et ils vont vraiment vous montrer que vous avez tout intérêt à avoir des abonnements ou des offres qu'ils vous proposent. Ça serait vraiment bête de passer à côté de ça parce que parfois c'est très avantageux. C'est l'occasion aussi ce soir de nouer des liens qui existent déjà entre l'ENS et les principaux théâtres de la scène lyonnaise. Je tiens d'ailleurs à remercier le service communication de l'école dans sa globalité qui nous a aidés pour ce projet, et notamment Audrion qui est présente ce soir. Bon, alors ces liens avec les théâtres lyonnais et puis l'ENS, ils ne sont pas nouveaux, on ne va pas non plus tirer la couverture à nous. Déjà parce que c'est la deuxième édition de cette soirée de présentation. Vincent Fleureau, qui est là pour le théâtre de Marronnier, peut en témoigner, il était là l'année dernière. Et ensuite parce qu'à l'ENS, on a une association de spectacles vivants en scène. Et à l'intérieur de cette association, on a le club en sortie qui, justement, vous propose des ponts vers les théâtres lyonnais. Et c'est Caroline qui s'occupe de ce club et qui va donc vous parler de ce club que normalement vous connaissez déjà.
Donc pour rappeler rapidement le fonctionnement d'En Sortie, il faut être adhérent à En Scène pour pouvoir profiter des spectacles proposés par En Sortie. Et tous les mois ou tous les deux mois, une newsletter est envoyée en présentant les spectacles mis en vente pour le mois d'après. Donc on a deux partenariats, l'un avec le TNP de Villeurbanne, l'autre avec le Théâtre des Célestins. et on vous propose sur une sélection de spectacles tout au long de l'année des places à tarif privilégié. Tarif privilégié, ça veut dire au TNP 7 euros la place, donc un prix que vous ne pourriez avoir qu'en prenant un abonnement de 8 spectacles, et au Célestin 8 à 11 euros la place. Donc de même, un tarif que vous ne pourriez avoir qu'en ayant une carte jeune ou un abonnement au Célestin normalement. Donc la saison d'en sortie a déjà commencé avec À bas bruit de Mathurin Bolz samedi prochain, dont toutes les places sont vendues, et la semaine dernière, l'atelier volant de Valère Novarina. Mais on a d'autres spectacles, donc certains sont encore en vente, comme Dommage qu'elle soit une putain, au Théâtre des Célestins, donc, qui est un spectacle un texte de John Ford, mis en scène par Declan Donnellan, fin novembre. Et au Théâtre National Populaire, donc au TNP, on a des places pour le spectacle de Joël Pommerat, La grande et fabuleuse histoire du commerce. Des places pour mai, juin, juillet de Denis Guénoun dans une mise en scène de Christian Scaretti. Donc c'est l'une des créations TNP de l'année. On a des places aussi pour Ukshukga, qui est un spectacle un peu original avec une actrice coréenne qui joue à elle toute seule une adaptation de Mère Courage de Brecht. Et enfin, on a des places pour Ruy Blas, donc de Victor Hugo, dans une mise en scène de Christian Scaretti, qui était l'an dernier le spectacle de réouverture du TNP et qui était un très beau spectacle. Donc ça, c'est les spectacles qui sont encore en vente actuellement. Et donc pour tout renseignement, réservation, vous pouvez écrire à sortie, donc au pluriel, sortie@enscene.org. Et dans la suite de l'année, donc au deuxième semestre, on aura différents spectacles. On aura un spectacle de Didier Besas, Que la noce commence. On aura Fahrenheit 451, donc une adaptation du texte de Ray Bradbury. On aura aussi des textes plus classiques, comme L'école des femmes ou La Locandiera. Donc tout ça, c'est au Théâtre des Célestins. Et au TNP, on a un certain nombre de spectacles aussi, dont des spectacles qui sont actuellement complets. C'est-à-dire que nous sommes votre dernière chance d'avoir des places pour ces spectacles. Notamment Un ennemi du peuple, qui est mis en scène par Thomas Ostermeyer, ou par exemple Hamlet, donc dans une mise en scène de Daniel Mesguich. On aura aussi, pour ceux qui connaissent, Pantagruel d'après Rabelais dans une mise en scène de Benjamin Lazare, donc qui était venu l'an dernier à l'ENS pour une rencontre. On aura également Qu'est-ce que le temps ? Donc d'après Saint-Augustin par Denis Guénoun, qui était aussi venu à l'ENS l'an dernier, et un autre spectacle comme Une saison au Congo, donc un texte d'Aimé Césaire, qui fait une belle occasion de découvrir ce théâtre-là. Et donc on aura normalement au second semestre un certain nombre de rencontres organisées peut-être à l'ENS autour de ces spectacles.
Alors dans la lignée justement de ces liens tissés entre l'ENS et les théâtres, à Transistor, nous vous proposons depuis la rentrée une émission que vous connaissez peut-être et que j'ai la chance de présenter qui s'appelle En spectateur et que vous pouvez retrouver et écouter sur notre site internet dans la rubrique À l'école. Alors dans la rubrique À l'école, puisqu'en effet c'est, l'idée de l'émission, c'était au départ de couvrir les spectacles programmés en théâtre Cantor et notamment par en scène, et c'était la volonté de rapprocher deux associations qui avaient déjà des liens entre elles, c'est-à-dire Transistor et en scène. Mais évidemment, comme vous le voyez ce soir, nous avons élargi notre spectre à d'autres partenaires hors des murs de l'ENS et donc sur la scène lyonnaise plus généralement. Alors en scène, c'est la volonté de faire la promotion et la critique du spectacle vivant à Lyon. Alors dans un premier temps, nous recevons ceux qui font les spectacles. Alors ça peut être les comédiens, les metteurs en scène, comme des métiers plus de l'ombre, les costumiers, les décorateurs, ceux qui s'occupent des lumières, de la technique, parce que ça compte beaucoup dans certains spectacles. On les reçoit pour qu'ils parlent de leur travail et qu'ils vous donnent envie de pousser la porte, un peu comme ce qu'on fait ce soir, pousser la porte des structures et aller voir du spectacle vivant, parce que le spectacle vivant, par définition, son spectateur, eh bien, il meurt. Alors après, avec une bande d'amis dont certains sont dans la salle, on va assister nous-mêmes à ces spectacles et on vous en fait ensuite la critique, sans avoir la prétention des experts, avec franchise et sans concession. En multipliant les points de vue, on est 4, au total 3-4, pour faire ces critiques. Bref, une émission faite par des spectateurs, pour des spectateurs, et qui n'a qu'une ambition, c'est faire comprendre à ceux qui nous écoutent que le spectacle, c'est pas juste une heure et demie, deux heures, 3 heures quand vraiment ça dure très très longtemps, assis sur des sièges plus ou moins confortables dans une salle de théâtre. Non, si on a une ambition, c'est vous faire prendre conscience que le spectacle, ça commence avant, c'est la curiosité de vous renseigner sur ce que vous allez voir, et c'est, je pense aussi, pourquoi vous êtes là ce soir, découvrir ce qu'on va vous proposer dans les salles sur les scènes lyonnaises. Et c'est ensuite sortir de cette salle et ne pas tout retourner dans la logique métro, boulot, dodo, et se dire, mais est-ce que ça a changé quelque chose dans ma vie, ce spectacle ? Peut-être finalement que la différence entre un bon spectacle, et on va vous en proposer plusieurs ce soir, on va présenter plusieurs ce soir, la différence entre un bon spectacle et un chef-d'œuvre, c'est ça, c'est la possibilité et la faculté de marquer et de bouleverser nos vies. Donc j'espère qu'on va vous en proposer ce soir des chefs-d'œuvre, en tout cas qu'il y en a dans les programmations. Voilà, donc ça c'est l'esprit dans Spectateur, que vous retrouverez dès mercredi. Là, mercredi, le 7e numéro sera diffusé. Alors j'en profite pour faire un petit peu de publicité si vous ne connaissez pas. Mercredi, vous pourrez découvrir la présentation de Macbeth de Verdi à l'Opéra de Lyon. On vous présente le spectacle et on ira le voir. On vous y emmènera pour en faire la critique dans une émission suivante. On fera aussi la critique de deux spectacles que nous sommes allés voir respectivement au Théâtre de Vénissieux et ici, en salle Cantor. Ces spectacles, c'était La Liberté pour quoi faire au Théâtre de Vénissieux et la pièce de Dario Fo, Mystère Bouffe, mise en scène par La Branche Bâtarde. On a donc été voir ces deux spectacles, on vous en fait la critique à partir de mercredi et on vous présente également les ateliers poétiques, non pas politiques, les ateliers poétiques dont s'occupe Lambert. Voilà, donc on vous présente ça, un programme chargé, un programme qui ressemble un petit peu à celui de ce soir où beaucoup de structures vont s'exprimer. Et d'ailleurs, cette soirée, vous pouvez la retrouver sur les ondes de Transistor également à partir de mercredi, puisqu'on l'enregistre et on la rediffuse. D'ailleurs, en réécoutant cette soirée, vous vous rappellerez que c'est à ce moment-là que j'ai laissé la parole à Maud Rataji, donc secrétaire de direction, je le rappelle, du Théâtre des Ateliers, et également à Claire Grenier, responsable presse, pour qu'elle nous parle du Théâtre des Ateliers.
Merci, bonsoir à tous. Donc simplement, oui, un peu avant de parler de la saison 12-13, moi je voulais resituer le théâtre Les Ateliers. On est situé dans le quartier Mercière, dans le 2e arrondissement, et on est un théâtre qui est dédié à la découverte d'auteurs contemporains, d'auteurs d'aujourd'hui qui parlent de nous, qui parlent du monde dans lequel nous vivons. C'est un théâtre qui est à la fois un lieu de création, qui est vraiment le corps de notre programmation. Cette année, on a 5 créations, mais c'est également un lieu de diffusion, d'accueil de spectacles. Le théâtre Les Ateliers fait partie du paysage théâtral lyonnais depuis un petit moment maintenant, puisqu'il a été créé en 1975 par Gilles Chavassieux, qui était alors assistant de Roger Planchon. Et ça a toujours été cette ligne artistique, faire découvrir des auteurs contemporains, à une époque d'autant plus où ceux-ci étaient peu représentés sur les scènes. Et maintenant, ce sont des auteurs qu'on retrouve sur les scènes de grands théâtres français ou européens. C'est également par les ateliers que sont passées des personnalités comme Ariane Mouchkine, Christophe Martaler ou Rodrigo Garcia. Et ce que je voudrais rajouter également, c'est que le théâtre Les Ateliers, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un lieu aussi atypique dans ses murs, puisque en fait nous sommes situés dans l'ancien couvent des Antonins, qui date du XIIIe siècle. On a deux salles. La salle Arthur Adamoff, elle, est installée en fait dans l'ancienne chapelle du couvent des Antonins. Donc ça, c'est vraiment un lieu atypique qui a eu différentes vies. Tout d'abord le couvent, ensuite il faudra attendre le milieu du 19e siècle pour que ce lieu soit une salle de spectacle, le théâtre du gymnase qui est un théâtre à l'italienne. Et puis par la suite, jusque dans les années 1960, ça sera le berceau du théâtre de Guignol. Je resitue rapidement un petit peu l'histoire parce que c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Et donc aujourd'hui, nous vraiment, on se bat pour faire découvrir les écritures contemporaines.
Bonsoir, merci de cette invitation. Je peux compléter un petit peu sur le côté. Claire vous a présenté le théâtre qui, c'est vrai, alors on n'est pas les seuls dans le quartier des restaurants, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus l'habitude au milieu des restaurants de découvrir des lieux de création. Aujourd'hui, il y a une grande tradition de laisser la parole aux auteurs et aux auteurs vivants. On a fait des petites exceptions avec des auteurs décédés très très récemment ou très très jeunes. Et aujourd'hui, on a eu l'envie depuis une ou deux saisons d'ouvrir aux écritures, ce qui convient d'appeler aujourd'hui les écritures scéniques, c'est-à-dire qu'on continue à défendre les auteurs vivants, mais qu'aujourd'hui, les matériaux qu'utilisent les metteurs en scène pour leur spectacle sont beaucoup plus larges et on avait le souhait de plus se cloisonner aux auteurs vivants, mais aux écritures scéniques contemporaines en général. Je peux vous donner un petit aperçu de la saison qu'on va vous présenter toutes les deux avec Claire, qui est effectivement le retour à une saison de création, ce qui fait vivre les maisons de façon toujours plus intense, plus vivante. On a un automne qu'on a souhaité consacrer à deux auteurs, que sont Jean-Charles Masséra et Éric Arlix. Et on leur a proposé, on a imaginé avec Simon Delétan, donc qui dirige le Théâtre des Ateliers, et ces deux auteurs, une façon de vous guider à travers leur œuvre, leurs œuvres, et à travers des propositions scéniques très différentes. C'est-à-dire qu'on a lundi prochain, par exemple, le 22 octobre, on confie à Jean-Charles Masséra, qui est un trublion dans ses textes, mais qui se livre lui-même à des performances autour de ses textes. Lundi, on a deux performances autour de deux textes, un d'Arlix, un de Masséra. Masséra lui-même, donc pour un texte qui s'appelle, alors qui est très très long, le titre, ça s'appelle Question, alors il faut que je m'en souvienne, Question à Silvio Akiyoshi, le patron des créatures qui vivent dans les herbes. C'est le début du titre. Cet homme étant le patron de la firme qui fabrique les Pokémon et qui s'entretient avec la femme de ménage de son entreprise autour de la question du redoublement du fils à cause des Pokémon. Voilà, je pense que ça donne un petit peu l'image, enfin ça donne une idée de ce qu'est ce texte-là, de la surprise que nous réserve Masséra en présentant, en performant lui-même ce texte. Et puis on a une performance liée au Monde joue, qui est un texte d'Éric Arlix, voilà, qui est un espèce d'écho en tout cas au texte de Masséra. Donc ça c'est un premier rendez-vous, et ensuite on aura la création, qui est le moment, vraiment le temps fort de l'automne de Simon Delétan, d'un texte qui s'appelle Le guide du démocrate, qui est un essai qu'ont écrit les deux, donc Éric et Arlix et Masséra, un essai à quatre mains que Simon adapte pour le théâtre, qui est au niveau de... Alors, si on part de la langue, je dirais qu'il y a un détournement de la langue de l'ennemi. En tout cas, c'est comme ça qu'eux présentent ce projet qui est parti d'une idée d'écriture collective lancée par la revue Tina, There is no alternative. Et ils ont écrit un espèce de guide pour gérer les vies sans projet qu'on a tous, et en détournement... C'est Masséra et Arlix qui parlent, voilà, en détournant un peu la langue, ce qu'ils appellent la langue LOL, dont tout le monde nous rebat les oreilles, la langue du marketing, la langue des slogans tout faits, des slogans politiques, des slogans marketing, etc. Donc on a cette création, Simon Delétan s'entourait de trois acteurs pour prendre un petit peu la figure, enfin la posture sans en être l'imposture, du démocrate, et d'un couple de démocratiseurs. Voilà, c'est vivre l'expérience démocratique avec toutes ses failles, toutes ses impasses. Ce qui est, quand ils écrivent, alors ce qui est très étonnant avec Masséra et Arlix, c'est que voilà, on est vraiment dans des espèces de textes engagés, mais qui détournent la langue, voilà, ce qu'ils appellent la langue de l'ennemi. Donc on est à la fois en référence à l'insurrection qui vient du comité invisible, donc vraiment dans des phases très cyniques, des écritures très cyniques qui nous disent qu'on perçoit un petit peu intuitivement l'étendue de nos failles, de nos échecs, etc., mais qu'on n'est encore pas assez armé pour y faire face ou pour s'engouffrer dans les failles, et qu'en même temps, ils ont une verve hallucinante et que c'est très, très drôle. Voilà ce qu'on dit tous, toujours, mais là, je crois qu'eux le sont particulièrement. Et en prélude à ces... Donc ça, c'est un spectacle qu'on jouera du 13 novembre au 6 décembre, tous les soirs à 20h. Et en prélude, on a souhaité aussi donner la parole à... Tu parlais tout à l'heure des créateurs aussi qui entourent les metteurs en scène, les créateurs son, les créateurs... Et là, voilà, on a donné une carte blanche aux créateurs son qui travaille avec Simon Delétan depuis très longtemps, qui s'appelle Nicolas l'Espagnol Rizzi, et qui avait envie de s'emparer lui aussi d'un texte pour en faire une expérience un petit peu particulière. Ça s'appelle, il a appelé ça une installation sonore pour écoute collective. Ça dure 30 minutes, vous pouvez le découvrir tous les soirs avant le spectacle du Guide du démocrate. Nicolas nous installe, vous installe dans l'obscurité avec un casque sur les oreilles. Donc on est vraiment tous ensemble, mais chacun dans notre découverte de ce texte d'Arlix qui s'appelle Programme, qui est une espèce de jeu dont vous êtes le héros face au capitalisme, en fait. Donc vous êtes sous les... Voilà, vous avez le casque sur les oreilles, les yeux fermés, parce qu'il y a une installation lumineuse face à vous pendant 35 minutes. Et voilà, il va vous guider dans l'univers d'Arlix, un univers de winner et de loser, comme Arlix le dit. Voilà, donc voilà, on vous invite sur ces trois moments différents, voilà, qui sont vraiment des endroits performatifs ou des créations plus traditionnelles, au sens plus traditionnel, même si le terme traditionnel s'applique rarement aux ateliers, hein, et puis avec cette installation sonore. Claire, je peux te laisser parler un peu après de ce qu'on vous a réservé avec 109, qui est un nouveau temps fort dans la saison.
Merci. Donc, en effet, le festival 109 aura lieu du 4 au 9 février. Et c'est un festival qui est consacré à de jeunes équipes qui ont été nouvellement remarquées. C'est un festival qui sera constitué de 4 spectacles aux formes très originales et très différentes en même temps, qui vont s'intéresser à d'autres disciplines. Ce ne sera pas uniquement du théâtre. Tout du moins, le théâtre va flirter avec le monde de la photographie. C'est par exemple le cas du spectacle Autoportrait, où la metteur en scène Clara Chabalier confronte en fait des démarches photographiques de photographes comme Édouard Levé ou de photographes américains. On va aussi s'intéresser au monde du roman et de la musique avec le spectacle Rapport sur moi, qui est une biographie de Grégoire Bouillet, pardon, et qui sera mise en scène par Mathieu Cruciani. Également au monde de la vidéo avec Débris de Denis Kelly, l'auteur anglais Denis Kelly, et qui sera mise en scène par Vladimir Steyert. Et bon, il ne nous est pas possible de présenter toute la programmation en détail de 209, mais moi j'avais envie de revenir sur un des spectacles notamment qui s'intitule Jérusalem plomb durci, qui aura lieu les 4 et 5 février. C'est une pièce de théâtre documentaire, et c'est une forme... très, très spécifique, puisque en fait, à travers, c'est un groupe de musiciens en fait, initialement, qui s'appelle les Winter Family, qui appartiennent plutôt à un mouvement alternatif, on va dire. Et c'est un premier spectacle de théâtre qui dresse le portrait de la société israélienne à travers le regard de Ruth Rosenthal, à travers son expérience, puisque elle-même est israélienne, et ils intitulent leur spectacle, donc enfin le sous-titre de leur spectacle, ça s'intitule Voyage halluciné dans une dictature émotionnelle. Donc c'est vraiment un des spectacles du Festival 109 à découvrir. Qui dit festival dit aussi la possibilité de voir un spectacle en première partie de soirée, un second en deuxième partie de soirée. Toutes ces infos, de toute façon, là, dont on vous parle avec ma collègue Maud Rataji, vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.théâtrelesateliers-lyon.com. Et je lui laisse la parole pour parler d'une autre création qui aura lieu au mois de mars, Perplexe.
Je vais faire un tout petit complément sur 109. L'idée, c'était vraiment ce que Claire disait, on parlait de la photo, c'était de voir comment les univers, les matériaux théâtraux se croisent, c'est-à-dire comment on part d'un roman ou comment on part, par exemple, d'un autoportrait, c'est-à-dire le début de la mise en scène de soi, et comment on va jusqu'à la scène, comment ces metteurs en scène-là, très jeune, même si aujourd'hui on est un jeune metteur en scène jusqu'à 40 ans, hein, vu que c'est très compliqué. Et que, du coup, mais comment ces jeunes metteurs en scène-là, quand c'est des fois leur tout premier projet, se saisissent d'autres choses et font se dialoguer, et font dialoguer les différents matériaux. C'est vrai que sur Rapport sur moi, c'est vraiment le principe du crossover qu'on retrouve dans les séries télé, c'est-à-dire un personnage d'une fiction, il prend le personnage du roman assez hallucinant de Grégoire Bouillet, de cette autobiographie, et il croise ça, il l'invite dans une autre fiction qui est pour le coup un documentaire sur les affres de la création d'un groupe de hard rock. Et en fait, il se dit, tiens, si je croise cet endroit-là, ces deux endroits-là, qu'est-ce que ça donne théâtralement ? Donc on se retrouve avec un batteur incroyable qui s'appelle Mathieu Desbordes, un comédien, une batterie, un univers très fort qui est l'univers du roman de Grégoire Bouillet. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais même lisez ce roman qui est incroyable. Et voilà, cette idée-là qu'on a, c'est un petit peu vraiment un temps particulier dans la saison où on avait envie de livrer d'autres paroles que des paroles brutes d'auteur. Voilà. Avec toujours la possibilité de découvrir plusieurs propositions par soir. Voilà. Et puis, bon, je vais revenir un petit peu dans les rails pour parler d'autres créations de la saison. Avec un texte de Mayenbourg, qui est son dernier texte et qui n'a encore pas été créé en France. Et c'est vrai que voilà, on revient dans la tradition qui n'est pas exclusive aux ateliers, bien sûr. On ne dit pas que les ateliers sont les seuls à faire de la création aujourd'hui. Mais c'est effectivement le cœur de théâtre dirigé aussi par des artistes. Le texte de Mayenbourg, qui est associé, on parlait tout à l'heure d'Ostermayer avec la pièce Ennemi du peuple. Mayenbourg, il est associé à la Schaubühne à Ostermayer depuis de longues années. Ils ont comme ça une vraie collaboration. Et il met en scène aussi, des fois c'est Ostermayer qui met en scène ses textes, des fois c'est Mayenbourg lui-même. Et voilà, là on est dans son dernier texte, qui est un vaudeville, écrit il y a 2 ans, avec revendiqué, je pense qu'il revendique vraiment le terme de vaudeville. Les Allemands sont beaucoup plus à l'aise que nous avec ça, et il y a une espèce de mouvement dans la dramaturgie des... Peut-être depuis, certains le rattachent à l'effondrement du mur et à la réunification allemande. En tout cas, les auteurs allemands, comme Mayenbourg, mais comme Philippe Leul, des gens beaucoup plus jeunes, ont décidé de faire un peu exploser. Ils sont toujours dans cette veine de théâtre engagé. C'est-à-dire qu'ils font vraiment face de façon assez véhémente à des problématiques sociétales, etc. Mais d'un coup, ils font exploser tous ces codes. La mise à distance devient vraiment de mise. Tout est déjanté, mais de façon toujours très, très intelligente. Donc ce mouvement-là, un peu absurde, perplexe, le spectacle dont je vous parle là, cette dernière comédie, on est vraiment dans cet endroit-là. C'est le pur esprit de l'absurde, extrêmement revendiqué. Tous les personnages se mélangent. On se retrouve, alors si aujourd'hui on parle un peu de pitch, le début de la pièce, c'est un couple qui est parti en voyage, qui rentre de vacances et qui retrouve le couple à qui il avait confié la garde de sa maison. Et en fait, ils se rendent compte petit à petit que le couple semble habiter là, en fait. Et donc, comme ça, il y a une explosion des identités et on ne sait plus qui est qui habite là. Je ne peux pas vous dire tous les personnages qu'on va rencontrer dans cette pièce qui est assez riche, disons-le comme ça. Voilà, une grosse dose d'absurde là-dessus. Et Gospodine, le dénommé Gospodine, la pièce qui suit, c'est pareil, il y a un critique allemand qui parlait de cet auteur qui s'appelle Philippe Leul, qui disait qu'il était entre Brecht et les Monty Python, exactement au milieu. Donc je vous invite à venir découvrir un peu ce que c'est un auteur allemand entre Brecht et les Monty Python. Donc voilà. On vous a donné des petits moments, des petits points saillants de ce qu'on vous concocte pour cette année. Et puis Claire, tu peux peut-être dire effectivement comment on vous concocte tout ça.
Oui, alors je vais juste revenir à mon tour un petit peu en arrière, simplement pour rappeler que les dates de Perplex, c'est du 12 au 28 mars et Gospodine du 3 au 6 avril, tout simplement. Alors juste voilà, pour aussi laisser un petit peu la parole aux autres structures. Pour les tarifs, nous on propose vraiment des... Enfin, comme d'autres structures, mais un tarif très intéressant qui est le pass atelier étudiant. Ce pass atelier coûte 10 euros et vous permet à chaque fois pour 7 euros de venir voir le spectacle de votre choix. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est d'acheter le pass culture de la ville de Lyon qui vous permet d'aller dans plusieurs structures pour un tarif préférentiel. Nous, sur présentation de ce pass culture, on vous offre le pass atelier qui initialement coûte 10 euros, comme je le disais. Donc c'est vraiment une manière de découvrir les auteurs contemporains par ce biais-là. Et puis aussi, je voudrais rappeler que cette découverte d'auteurs se fait par des rencontres après les spectacles, des rencontres en bibliothèque ou avec les étudiants. Il y a toute une politique de médiation culturelle qui permet de pousser un petit peu plus avant la découverte d'auteurs contemporains. Voilà.
Très bien. Alors, avant de passer la parole à Alexandra Sauquet du Théâtre de Vénissieux, vous rappelez que donc, cette programmation que vous découvrez ou que vous pourrez redécouvrir sur le site, des ateliers, on la suit. Avec En Spectateur, on va couvrir la moitié de cette programmation et des spectacles comme Le Programme ou alors Jérusalem Plomb Durci, nous allons les couvrir pour vous. Voilà, maintenant je laisse la parole au Théâtre de Vénissieux et à Alexandra Sauquet, la responsable presse, qui nous fait la gentillesse de venir nous en parler.
Tout d'abord, merci de votre invitation. On est toujours très content de venir parler du Théâtre de Vénissieux. Je vais localiser Vénissieux parce que ça a l'air à l'autre bout du monde, mais en fait c'est assez proche, surtout si on prend le métro D et qu'on va jusqu'au terminus, qu'on repère bien la Maison du Peuple, car c'est le deuxième nom du Théâtre de Vénissieux, et là vous êtes à 5 minutes à pied du théâtre. Voilà. La particularité du théâtre, c'est d'avoir une proposition vraiment très, très éclectique. Sur nos affiches de saison, on a mis une petite phrase d'accroche qui dit danse, théâtre, jeune public, musique. Il y a forcément un spectacle pour vous, donc j'espère que vous trouverez des choses à votre goût. En tout cas, moi j'avais envie ce soir là, de vous présenter trois spectacles qui sont très différents et qui vont peut-être vous donner comme ça un petit panorama de ce qu'on peut retrouver chez nous. Donc, le premier spectacle dont j'avais envie de vous parler sera donné au mois de novembre, le 30 novembre. Il s'agit de Modèle, avec un S. C'est une mise en scène de la compagnie La Part des Anges, la metteuse en scène, on dit, hein, et Pauline Bureau. J'insiste sur metteuse en scène parce que, justement, c'est un spectacle qui n'est pas militant ni féministe, mais qui parle de la femme. Qu'est-ce qu'être une femme en 2012 ? C'est la question que s'est posée Pauline Bureau. Peut-être que cette question vous rappellera la question, enfin en tout cas l'assertion de Simone de Beauvoir qui disait « on ne naît pas femme, on le devient ». Bon, en tout cas, elle a eu envie de se poser cette question. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique ? Quelles injonctions on a encore aujourd'hui ? Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas du tout revendicatif, on n'est pas dans le militantisme, on est vraiment dans une question qui va mélanger plein d'extraits d'auteurs. C'est-à-dire qu'on va retrouver effectivement Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, mais aussi des auteurs d'aujourd'hui comme Catherine Millet, Virginie Despentes, enfin des gens qui ont eu envie de parler de la femme aujourd'hui. Donc c'est un spectacle un petit peu particulier aussi parce qu'il va mélanger le théâtre, la musique et la vidéo. Musique en live et vidéo aussi avec une des comédiennes, elles sont six sur scène, une des comédiennes qui sera présente que par l'intermédiaire de la vidéo. Pourquoi la vidéo et un traitement sonore particulier ? Parce que pour elle, c'était aussi une manière de rentrer dans l'intimité, de pouvoir raconter des choses différentes, parfois chuchoter, parfois des images, des bouts de corps. Enfin voilà, elles vont raconter ce qu'est pour eux la femme aujourd'hui au travers des auteurs que j'ai cités tout à l'heure notamment. Mais ça va être fait de manière assez festive, parce que c'est un spectacle assez joyeux. D'ailleurs, vous avez peut-être lu des choses dans la presse récemment, parce qu'elles jouent actuellement au Théâtre du Rond-Point. Pour un mois, elles ont commencé le 10 octobre et elles joueront jusqu'au 10 novembre. Et voilà, donc en tout cas, ça se veut très joyeux, c'est assez engagé malgré tout, hein. Ça peut bousculer certaines personnes, mais ça fait du bien des fois de se faire un petit peu bousculer. Et donc voilà, ça sera donné au 30 novembre. Je parlais de ce spectacle qui mélange les différentes disciplines, parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi à d'autres moments dans l'année, ce mélange de disciplines, comme notamment dans le spectacle « Gomme d'habitude ». C'est le deuxième spectacle dont j'avais envie de vous parler, qui est un spectacle de musique et de danse. La compagnie qui présente ce spectacle, en fait, c'est un mélange entre un groupe de musique et une compagnie. Le groupe s'appelle les Blaireaux de Ravel. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Comme son nom l'indique, ils ont pas mal d'humour. Et en fait, c'est un groupe à la base de rock festif qui a beaucoup commencé dans la rue avec des choses assez balkanisantes, très enlevées, et aussi avec un travail chorégraphique, enfin une mise en, en, en gestes. Et oui, on peut dire un peu chorégraphié de la musique. En tout cas, ils s'amusaient beaucoup. Ils étaient très repérés pour leur prestations scéniques, autant que pour leur musique. Et puis là, ils ont commencé à être un petit peu plus rock et peut-être un peu plus électro dans le dernier album qui est sorti récemment. Et ils ont eu envie de présenter cette année un spectacle qui va mélanger donc la musique, leur musique. Et ils ont interpellé une compagnie de danse qui s'appelle Vilcanota, pour présenter un projet mêlé qui s'appelle donc Comme d'habitude. Enfin non, Comme d'habitude, c'est le piège. Et donc qui sera une soirée de création musicale, mais on ne sera pas à l'abri de quelques reprises, encore une fois, comme le nom l'indique. Voilà. Troisième focus, et puis après je vous ferai quelques petites allusions au reste de la saison, sur Lorenza Scio, qui sera mis en scène par Michel Beltante de Théâtre et Compagnie. Michel Beltante, qui est un monsieur du théâtre qui a quelques années déjà derrière lui. Vous avez peut-être vu au travers d'autres créations. Et donc, pour resituer un tout petit peu l'intrigue de Lorenza Scio, donc on est au XVIe siècle. Un tyran dirige la ville de Florence. Et Lorenzo, qui est un jeune étudiant assez idéaliste, choisit de combattre ce tyran et dans l'objectif de le tuer. Et pour ce faire, il va essayer de se rapprocher du pouvoir, mais se rapprocher du pouvoir et d'un pouvoir corrompu, ça peut être dangereux. Et d'ailleurs, il va en faire les frais. Donc, c'est vraiment une pièce sur le pouvoir, sur comment on peut combattre aussi ce pouvoir. Et comme il peut être dangereux de se compromettre au contact des gens déjà corrompus. Donc à l'origine, c'est une pièce donc, qui est très longue, et puis qui faisait plus de 16 heures avec 62 tableaux différents, hein, la première fois qu'elle a été donnée. Donc je vous rassure tout de suite, elle ne durera, enfin, c'est une création, mais on sait déjà qu'elle ne durera qu'une heure 50. Et donc c'est vraiment le texte de Musset, avec par contre quelques coupes. Sinon, l'idée de cette mise en scène, c'est de proposer donc une lecture contemporaine avec une mise en scène très dépouillée. Donc lui, Michel Beltante, y voit une partie de poker menteur. Donc il a envie d'installer comme ça un certain suspense, de vraiment jouer sur le bluff entre les personnages, et une mise en scène très, très noir et blanc, très, très épurée, avec des musiciens en live aussi, avec une musique blues. Voilà. Oui, c'est assez étonnant. Il y aura une quinzaine de personnes sur le plateau. On ne peut pas dire encore exactement combien aujourd'hui, puisque c'est encore en création. Et donc, ça sera donné chez nous le 15 mars. Voilà, une création donc de Théâtre et Compagnie qui est également donnée au TNG, Théâtre Nouvelle Génération. Voilà. Il y a d'autres pièces classiques qui seront données au Théâtre de Vénissieux, comme par exemple Les Femmes Savantes, mais dans une tonalité totalement burlesque, avec une compagnie qui est vraiment quasiment proche du clown dans son traitement, la compagnie du Détour au mois de décembre. Et puis d'autres choses à découvrir aussi en théâtre, comme Annette, un spectacle des Transformateurs qui sera joué aussi au TNP dans pas très longtemps, et d'autres spectacles aussi très différents, du cirque, de la musique, avec pour ceux qui aiment Émilie Loiseau par exemple, qui va passer le 15 novembre chez nous, ou Arnaud dans une tonalité beaucoup plus rock, qui nous rejoindra à la fin de la saison. Donc beaucoup de choses très différentes. Je fais confiance à votre curiosité pour aller jeter un œil sur notre site où vous aurez pas mal d'extraits vidéo et des extraits sonores pour avoir un petit aperçu de tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des tarifs aussi aux Têtes de Vénissieux qui défient toute concurrence, puisque vous avez un abonnement 3 spectacles à partir de 5 euros par spectacle. Donc 3 spectacles à 15 euros. Il y a quelques petites exceptions, notamment en ce qui concerne les concerts, où il y a des places un tout petit peu plus chères. Mais sinon, effectivement, si vous trouvez votre bonheur, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Ben merci beaucoup. Alors, je vais passer le micro maintenant de l'autre côté de la table, à Vincent Fleureau du Théâtre des Marronniers. Mais avant de passer le micro, dire que là encore, partenaire, et on le prouve, puisque nous sommes allés voir donc une pièce qui se jouait vendredi, La liberté pour quoi faire, avec des extraits donc, de textes de Bernanos. Et on en fait la critique donc mercredi dans l'émission, le numéro 7 dans Spectateur à sortir. Je vous laisse la parole, Vincent, pour parler du Théâtre des Marronniers.
Eh ben, merci beaucoup de m'accueillir. Alors effectivement, je représente le Théâtre des Marronniers et donc les petites salles de Lyon. On est un tout petit théâtre de 50 places dans la rue des Marronniers, donc qui est la rue traditionnelle des Bouchons, au fond d'une cour 18e. Donc la salle est moins impressionnante qu'aux ateliers, mais bon, ça a son petit charme quand même. Alors... Bon, je vais parler un petit peu de ce qu'on fait, et puis je l'illustrerai par un ou deux spectacles simplement. Hein. Vous retrouvez toute la saison sur www.theatre-des-marronniers.com. Donc on est un théâtre de création essentiellement. Donc tu parlais de chef-d'œuvre tout à l'heure, c'est un peu difficile de le dire vu que la plupart des spectacles, on ne les a pas vus, en tout cas chez nous. On a à peu près 80-85% de création chez nous. Alors, juste pour dire un petit mot quand même sur ce qui nous fait, comment dire, avant, enfin, ce qui nous fait vivre en partie en plus du public, c'est le réseau Scène Découverte, donc une convention qui a été signée avec la ville, l'État, la région, et on représente les salles dont le but en gros est de donner un espace de jeu aux comédiens qui sont en début de professionnalisation ou alors simplement qui sont juste sortis de l'école. Juste pour rappeler, il y a pas mal de formations théâtrales sur Lyon, dont une autre école nationale, l'ENSAT. Je dis ça par rapport à Normal Sup. Et puis le Conservatoire de Lyon. Et donc ça fait énormément de gens qui arrivent en voie de professionnalisation et qui veulent créer des spectacles. Et donc les Scènes Découvertes sont là pour les accueillir dans un premier temps. Les aider à se professionnaliser et à essayer de vendre leur spectacle. Donc, à la différence aussi d'autres lieux, on donne des représentations, enfin des séries assez longues chez nous, de peu près 10, 15, voire ouais, jusqu'à 15 représentations, pour que le spectacle vive de lui-même s'il est bien et que les gens viennent le voir. Et puis surtout pour qu'on donne un espace de. Enfin, une grosse disponibilité pour les programmateurs des autres lieux plus grands, pour qu'ils puissent venir voir les spectacles et les programmer potentiellement après. Donc, on est content parce que des fois, il y a des comédiens qui ensuite font effectivement un chemin et vont ensuite jouer dans des lieux plus grands, aux ateliers, au Célestin. C'est un petit peu notre façon de travailler et c'est pour ça qu'on fait ça. Notre programmation, en gros, on a deux types de spectacles. On a surtout une spécificité aux marronniers, c'est qu'on fait du théâtre musical. Donc, ce sont des pièces avec une dramaturgie, une histoire, mais dans lesquelles est inséré des instruments de musique joués en live. On ne peut pas avoir de musique amplifiée chez nous, vu qu'on est en bas d'un immeuble. Mais donc voilà, on a beaucoup de pièces avec du chant lyrique, aussi des instruments... de musique classique, mais pas forcément. Donc ça, c'est quand même une grosse partie de notre travail. Et puis à côté de ça, on fait un accueil de création, de compagnies qui veulent montrer leur premier spectacle dans des conditions professionnelles. Alors, juste pour illustrer mon propos, je vais vous parler juste de deux spectacles. Un spectacle qui s'appelle Goguette, qui aura lieu du 1er au 18 novembre. Alors là, c'est pour le coup pas une création, ça nous arrive aussi. C'est un spectacle qui a été créé au studio de la Croix-Rousse l'année dernière en novembre. Mais là, c'est pour illustrer le côté théâtre musical. Donc les Goguettes, c'était des espèces de cafés chantants, des lieux de réunion, fin 19e à peu près, dans lequel se réunissait toute la population, en gros, aussi bien les ouvriers que des étudiants, ou des intellectuels ou des bourgeois. Et ils venaient, en gros, réciter des poèmes qu'ils avaient écrits et les dire en chantant. Donc je ne sais pas si on peut allier ça à une sorte de karaoké sans technique ou quelque chose comme ça. Donc c'était des lieux qui, petit à petit, ont disparu. Et donc la compagnie du Chien Jaune, que nous accueillons pour ce spectacle, a décidé de reparler de cette histoire, plutôt pour le caractère social de ces lieux. Le spectacle, juste une petite aparté, fait partie du festival Le Novembre des Canuts, qui est un festival qui met à l'honneur l'histoire de la Croix-Rousse. Donc, plutôt à travers sa dimension sociale et à travers les Canuts qui ont créé la légende de la Croix-Rousse. Donc, nous, on n'est pas la Croix-Rousse, mais on fait quand même du théâtre musical, donc ça nous a quand même été plus qu'évident de proposer ce spectacle. L'idée du spectacle, c'est qu'il y a un couple qui... Donc, je ne l'ai pas vu, hein, évidemment. Il y a un couple qui est, en gros, vit fin 19e, et il y a un couple qui est, lui, actuel. Donc, il y a une idée de sorte de cabaret avec de la musique fin 19e, début 20e. Et à côté de ça, il y aura de la musique un peu plus rock'n'roll et dans une idée aussi de modernité et de montrer les problèmes qu'il pouvait y avoir à l'époque et d'en faire tout de suite une comparaison maintenant. Un petit dernier point sur ce spectacle, Valérie Zipper, donc la metteuse en scène, a voulu aussi prendre en point d'appui un personnage historique que je ne connaissais pas avant de travailler sur ce spectacle, mais qui est assez... légendaire, vu que c'est Teresa, une chanteuse qui s'appelle Teresa. Son surnom, c'est la Diva du Ruisseau. C'est en gros la première star française. Il n'y a quasiment aucun enregistrement de sa voix. C'est une chanteuse qui, à force de faire la tournée des cafés chantants, justement, et des goguettes, a acquis une réputation énorme et elle a quasiment lancé l'industrie du spectacle en France, vu que tous les producteurs des différents théâtres parisiens se l'arrachaient. Et elle a réussi à faire monter des sommes et à devenir richissime. Et elle a, en gros, été une précurseur de ce que deviendra l'industrie du spectacle. Donc, sur ce personnage un peu légendaire, il a existé, Valérie Zipper a adapté le travail de mise en scène et en se basant sur des moments clés de la vie de Teresa et en les reliant à ces quatre personnages, donc un couple du présent et un couple du passé. Voilà, donc ça, c'est se passe du 1er au 18 novembre chez nous. Donc vous voyez, une série assez longue pour pouvoir avoir le temps de venir le voir, le spectacle. Et puis alors, un autre spectacle qui se passe juste après, qui illustre l'autre partie de notre travail, plutôt sur les jeunes compagnies. Donc ça, c'est la compagnie du Songe d'une planche à vif. Alors c'est une compagnie, comme on le fait souvent, qu'on accompagne pendant plusieurs années. On aime bien cette idée de travailler sur l'accompagnement et sur l'aide à la professionnalisation. La compagnie du Songe d'une planche à vif, c'est un peu difficile, avait créé un spectacle qui a beaucoup tourné, un spectacle qui s'appelait Dire peut-être et qui était basé sur des entretiens avec des personnes qui avaient des difficultés pour parler, ou parler était le métier, donc comme des avocats ou sinon des bègues, par exemple, des personnes qui avaient du mal à parler. Et partant sur la même manière, elle a décidé de recréer un spectacle aussi à partir d'entretien. Donc là, ça a été, c'est un spectacle qui a été créé au Bravo de la Nuit en août dernier. C'est un festival qui a lieu à Pélussin, dans la Loire. Et qui a été, le spectacle a été une commande du festival. Et l'équipe artistique a fait une résidence dans deux hôpitaux gériatriques de la Loire. Et il y a eu une série d'entretiens qui a été faite avec les résidents, le personnel et la famille sur la trace et la mémoire. La trace que l'on laisse sur Terre et la mémoire qui peut soit défaillir, soit rester. Donc les entretiens se passaient simplement. Grégoire Blanchon, le metteur en scène, demandait aux personnes d'amener un objet qui leur était cher, un objet de leur passé, un objet de leur présent. Et là-dessus, il y avait tout un tas de discussions qui se faisaient. Et donc, petit à petit, de fil en aiguille, il en est né un spectacle. Donc c'est un spectacle pluridisciplinaire parce qu'à côté de ça, il y avait quelqu'un qui enregistrait les entretiens et qui en a fait des pistes, Benjamin Gibert, qui a fait des pistes qui illustrent le spectacle, c'est de la musique électroacoustique essentiellement. Il y a aussi une partie chorégraphiée dans le spectacle. Et enfin, autre discipline, il y avait un peintre qui assistait aux entretiens et qui, sur certaines phrases clés, prenait ces phrases clés et en faisait un tableau. Donc l'exposition de peinture sera proposée dans notre foyer, qui est un petit espace qu'on a au Théâtre des Marronniers, dans lequel on peut boire un verre. Le spectacle se déroulera, il y aura un petit moment de discussion, c'est intégré directement dans le spectacle, et puis après, il y aura un petit court-métrage sur la création des peintures de Pierre Mathevon, le peintre. Donc c'est un spectacle qui s'appelle Traces, et qui aura lieu du 21 novembre au 3 décembre prochain. Voilà, je ne vais pas parler spécialement plus de tous les spectacles, parce qu'il faudrait que j'en dise un petit peu trop, et puis ça serait un petit peu trop brouillon, et voilà, donc j'improvise un peu. Au niveau des tarifs, les étudiants de l'ONS payent 8 euros par spectacle quand ils viennent chez nous, tout simplement.
Voilà, c'est clair et net. Alors pour revenir sur le spectacle Trace, on le couvre aussi avec en spectateur et en gros, au Théâtre des Marronniers, on y va une fois par mois. En gros, on couvre donc une grosse partie de la programmation à partir du spectacle Trace, qui est donc le premier que nous couvrirons en recevant en amont à la fois donc le metteur en scène et celui qui s'est occupé des musiques, et vraiment le créateur sonore, on va dire. Alors je vais passer maintenant le micro à Lambert, qui va vous parler de l'association Maison en scène, que nous suivons vraiment depuis le début. On a couvert les Cités Muses et vous y étiez certainement. Le prochain spectacle, c'est Suréna, tragédie baroque de Corneille, les 18, 19 et 20 octobre. On en a fait la présentation en ayant reçu Mélodie Carrecchio, la musicienne baroque de l'ensemble INSEE, qui est associée à ce spectacle. Et donc ça, c'était dans l'émission de la semaine dernière. Et on en fera les critiques donc dans deux semaines, une fois qu'on aura vu le spectacle, bien sûr.
Merci, bonsoir. Donc oui, Suréna, donc je ne sais pas si je vais vous le présenter encore, vu qu'il y a eu une émission qui a été consacrée déjà à sa présentation. Voilà, donc sachez qu'il se joue du 18 au 20. Voilà, spectacle baroque avec éclairage à la bougie. On attend plus de 200 bougies sur scène, notamment. Voilà, ça va être un bel objet à découvrir ici. Ensuite, la suite de ce début de saison qui a été programmé, donc, nous avons au mois de novembre, du 23 au 25, La maladie de la famille M de Fausto Paravidino, qui sera joué par la compagnie du Bonheur Vert. Donc La maladie de la famille M, c'est un drame familial écrit par ce jeune auteur italien. Je crois que c'est la première pièce qu'il écrit, donc c'est un auteur assez sombre, une pièce assez sombre. Donc ce sera l'occasion de découvrir autant cet auteur que cette jeune compagnie lyonnaise du Bonheur Vert qui fait un boulot vraiment intéressant. Ensuite, au mois de décembre, du 12 au 14, on aura Les Ombres de Peter Pan. Alors là, je vais laisser la parole à l'équipe du spectacle. Donc voilà, c'est la maison d'Eliott qu'on reçoit en scène. Enfin, dans le Théâtre Cantor, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir accueillir un spectacle de cette association avec laquelle on collabore plus ou moins étroitement depuis deux ans. Ils ont participé à la création du Château des Cœurs. C'est une association qui fait du cinéma, donc on a participé à la production de leur moyen métrage 8 qui a été présenté pendant les Cités Muses. Et là, on les accueille sur une grosse création, un gros projet qui leur tenait à cœur et que ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir le créer ici au Théâtre Cantor, qui s'appelle Les Ombres du Peter Pan, d'après le Peter Pan de James Barry. Donc si vous voulez dire un petit mot, on accueille Vladimir.
Merci beaucoup. Donc quelques mots pour présenter ce spectacle qui se base sur le texte de James Matthew Barry qui a été écrit en 1904, parce qu'il faut savoir qu'au début Peter Pan était une pièce de théâtre. Et voilà, nous, notre travail, ça a été de nous réapproprier ce texte. C'est un texte un petit peu particulier parce qu'il est composé à 70% de didascalies et à 30% de dialogues. Et à travers toutes ces didascalies, ces commentaires de l'auteur, puisque ce dernier n'a pas cessé de réécrire son œuvre sous la forme d'abord d'une pièce de théâtre, puis d'un roman ensuite qui est déjà plus connu, qui s'appelle Peter et Wendy, je crois, Peter Pan et Wendy. Nous avons décidé de voir à travers ses notes ce qu'il avait passionné dans cette histoire et essayer de développer certaines zones d'ombre de l'histoire de Peter Pan qui sont peut-être moins connues. Et on est allé dans ce sens-là. C'est un projet qui va regrouper plusieurs dizaines de comédiens, aussi des danseuses, des danseurs et aussi des musiciens. L'idée, c'est vraiment de créer un spectacle vivant qui va mélanger aussi les arts, puisqu'on vient un peu tous de différents secteurs, différents arts comme le cinéma, le théâtre, la musique ou la danse. Voilà, est-ce que tu veux compléter quelque chose ?
Non, je crois que tu as à peu près tout dit. Non, c'est, oui, le but de ce projet, en fait, c'est aussi de, voilà, comme le disait Vladimir, de rassembler un maximum de domaines artistiques possibles, de faire des rencontres dans un maximum de domaines, que ce soit dans la création des costumes, des maquillages, dans l'utilisation aussi des techniques de la vidéo, voilà, de la composition musicale. Et voilà, notre but aussi, c'est vraiment de pouvoir créer une troupe qui ensuite pourra continuer d'évoluer à travers des projets futurs. Voilà, on se lance dans une belle aventure et on espère qu'elle va durer longtemps. Voilà.
Voilà, donc merci beaucoup. Et puis je vous invite à venir du coup découvrir... au moins le texte, après le spectacle on verra s'il est bien, mais au moins le texte qui est très beau de James Matthew Barry, du coup voilà, du 12, 13, 14 décembre de cette année, si tout va bien.
Merci beaucoup.
Donc voilà pour notre programmation de décembre, que de toute façon vous allez pouvoir suivre vraiment de très près sur l'émission En Spectateur. Un petit mot sur ce qui va venir aussi, on peut d'ores et déjà vous dire que du 29 au 31 janvier se jouera un spectacle mis en scène par Nicolas Murena de l'école, qui sera un spectacle sur le masque. Il a décidé de travailler sur le masque italien. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment, mais ce sera donc du coup un spectacle burlesque, donc encore vraiment une toute autre forme de spectacle qui va se présenter à nous cette saison. On va avoir une saison assez riche par sa diversité, et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, un petit rappel sur les prix dans scène, vous les connaissez sûrement. Donc les tarifs réduits sont à 5 euros, les tarifs pleins sont à 6 euros, donc pour les salariés et les normaliens. Et pour les adhérents, il y a des prix très intéressants qui sont à 3 euros le spectacle, voire 2 euros si vous les prenez en pré-vente à la sortie du self dans la semaine avant le spectacle. Voilà. Et bien sûr, vous retrouvez aussi toutes nos informations sur le site qu'on est en train de refaire, www.enscène.org. Ce sera tout pour moi.
Merci Lambert. Et toutes ces informations sont relayées aussi par En Spectateur, puisque notre politique En Spectateur, c'est simple, c'est tous les spectacles dans scène, nous les couvrons, c'est-à-dire on les annonce en recevant donc ceux qui font les spectacles et ensuite en faisant la critique. Alors je vous demande maintenant d'applaudir Pierre-Henri Alquier qui est venu. Tout le monde a été applaudi, j'ai loupé les applaudissements de Lambert tout à l'heure, je ne louperai pas les vôtres. Donc Pierre-Henri Alquier pour l'opéra, et je lui passe le micro tout de suite pour qu'il nous parle de son spectacle. Donc voilà, vous allez donc nous parler de l'Opéra de Lyon. Juste dire qu'en Spectateur aussi, nous couvrons et nous avons donc un partenariat, grâce notamment à Sophie Jarja, la responsable presse qui coordonne cela et que je remercie, mais qui n'a pas pu venir. Et nous vous avons emmené dans l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon il y a de cela deux semaines, avec une interview de Daniel Evinec de l'Orchestre National du Jazz. Et nous allons vous présenter, mercredi qui vient, Macbeth, grand opéra de Verdi. Et voilà, je vous laisse la parole maintenant pour nous parler.
Merci, bonsoir à tous. L'opéra, effectivement, c'est du jazz. Et l'opéra, et pas que de l'opéra, on fait plein de choses dans notre grande maison. On a à peu près 400 spectacles par an, pour une part importante dans la grande salle. L'opéra compte deux salles principales et on fait également plein de choses hors les murs dans des théâtres partenaires qui ne sont pas représentés ce soir mais qu'on visite assez régulièrement. Vous viendrez voir Macbeth et puis je vous encourage, vous qui êtes là, motivés, à aller voir un spectacle qui est un peu à l'image de ce qu'on fait à l'Opéra de Lyon, c'est-à-dire des œuvres qu'on revisite par le théâtre. On fait des On a bien des représentants du théâtre contemporain aujourd'hui. On s'intéresse aussi au théâtre contemporain. On ne fait pas de la mise en scène classique, en costume, à l'Opéra de Lyon pour les opéras. On aime revisiter les œuvres et les faire parler à chacun, que des histoires du 18e ou du 19e siècle résonnent dans chacun de nous. Et c'est le cas pour Macbeth, qui est bien représentatif de ce qu'on aime faire à l'opéra, c'est-à-dire revisiter une œuvre. Et ici, on la situe dans une actualité qui est moins brûlante que ce qu'elle n'était à l'époque où l'opéra était programmé. C'est-à-dire qu'on la situe dans le Wall Street des manifestations de l'an passé avec les indignés, les Anonymous et les Occupy Wall Street. Donc on visite une œuvre de répertoire en lui faisant raconter des choses d'aujourd'hui, des choses qui nous parlent et qui nous font avancer et aussi qui nous divertissent, c'est intéressant. Voilà, donc on aura cette année à l'Opéra de Lyon une grande diversité d'esthétiques. On va embrasser un peu tous les genres de l'opéra, de la musique baroque à la musique la plus contemporaine, celle qui est en train encore aujourd'hui de s'écrire et qu'on découvrira au mois de mars avec un spectacle qui s'appelle Claude, qui est une invitation à Robert Badinter d'adapter un texte de Victor Hugo qui s'appelle Claude Gueux, qui est un peu la préfiguration des Misérables. On trouve dans Claude Gueux pas mal de traits de caractère du Jean Valjean des Misérables. Donc Badinter, c'est une grande figure de l'histoire de France au XXe siècle, pourfendeur de la peine de mort, se saisit du texte de Victor Hugo qui a imbibé, irrigué vraiment sa pensée et tout son parcours de jeune avocat, puis de garde des Sceaux, et qui nous raconte l'histoire d'un homme qui est condamné pour une broutille et qui est embarqué dans une espèce d'horreur judiciaire qui va le mener à l'échafaud. On en fait un opéra. On a demandé à un compositeur qui est Thierry Esquèche, qui est un compositeur français contemporain, d'en écrire la musique, et le spectacle naîtra au mois d'octobre dans un festival, ça sera le point d'orgue du festival, dans un festival autour de l'idée de justice et d'injustice qui va nous montrer quatre opéras qui parlent de la condition humaine et du grand chantier justice. On va parler je suis en train de me remémorer le spectacle. En fait, on a eu une réunion tout à l'heure où on nous a présenté avec les maîtres d'œuvre, les metteurs en scène des opéras, un peu ce qui allait se montrer. Et du coup, je n'ai pas toutes les choses en tête. C'est frais, mais c'est trop frais sans doute. On va avoir en fait une déclinaison d'œuvres qui vont être saisies par des vrais créateurs dans la mise en scène, des œuvres qui vont être assez radicales dans leur esprit. En particulier, une qui va être confiée à un metteur en scène qui n'en est pas un, qui est un grand plasticien contemporain qui s'appelle Gary Hill, qui est un vidéaste américain qui va prendre à bras-le-corps une œuvre de répertoire qui s'appelle Fidelio, qui est le seul opéra de Beethoven, qui va en faire une espèce de performance artistique étonnante, tout en respectant évidemment, comme on le fait toujours dans nos opéras, une partition qui est défendue par un chef d'orchestre et des chanteurs. Donc on relit simplement une œuvre de façon très contemporaine et on en fait un nouvel objet artistique, et ce sera vraiment passionnant. On va découvrir dans le festival d'autres œuvres qui s'intéressent à l'idée de justice. Le Fidelio, lui, est une histoire d'erreur judiciaire, une espèce de cabale contre un personnage qui n'a rien fait, mais qui gêne politiquement un dictateur. Dans d'autres œuvres, on découvrira aussi cette dimension d'emprisonnement pour une faute qu'on n'a pas commise et qui sera un prolongement de la vision du texte de Badinter et d'Hugo, ça sera intéressant. Et puis on a plein d'autres œuvres de répertoire qu'on va découvrir dans des mises en scène surprenantes. On a une flûte enchantée, on a un capriccio de Richard Strauss, qui est une œuvre du XXe siècle passionnante. Plein d'œuvres, un Messie de Handel, donc dans la veine baroque de l'opéra, qui n'est pas un opéra, mais qui va être mis en scène et qui va raconter une histoire d'un Christ à hauteur d'homme. On en fait un personnage, un vrai personnage. C'est une histoire d'évangile, en fait, cet oratorio, et on en fait une histoire de théâtre. Donc ça sera au mois de novembre, et ça va être un joli moment d'une musique qui enchaîne les tubes, qui est une espèce de merveille de chant baroque. Et puis, pour l'opéra, on va s'aventurer dans des univers plus contemporains, avec des œuvres du XXe siècle ou du début du XXIe, d'autres œuvres qui seront à découvrir. Mais je ne vais pas vous faire la litanie des œuvres enchaînées dans notre programmation. J'ai amené des plaquettes que vous pourrez découvrir si vous voulez approfondir le sujet. Puis juste un mot sur deux univers qui sont complémentaires de notre saison d'opéra. D'abord le ballet. On a à l'opéra une compagnie de danse qui défend un répertoire contemporain lui aussi, par des danseurs qui ne sont que des danseurs de danse classique, qui ont tous fait leurs premières armes ou leur classe dans les grands ballets de répertoire classique, donc à l'Opéra de Paris, au Bolshoï ou dans d'autres grandes maisons, et qui viennent à l'Opéra de Lyon défendre des esthétiques d'aujourd'hui, et des chorégraphes qui ont fait l'histoire de la fin du XXe siècle ou qui écrivent celle à venir au XXIe. Donc on a un grand écart entre des œuvres de répertoire postmoderne ou néoclassique et des œuvres de création pure, voire de non-danse, c'est-à-dire plutôt de forme théâtralisée de la danse aujourd'hui. Et puis, dans notre deuxième salle, qui est celle que Thomas évoquait à l'instant, qui est celle de l'amphithéâtre, on va défendre et montrer des œuvres et des artistes d'univers vraiment très variés. On va aller s'intéresser à la musique telle qu'on la vit au fin fond des pays du Sud. On va accueillir des artistes de Mongolie, des artistes d'Inde, des artistes d'Afrique du Sud ou d'ailleurs, dans une programmation de musique du monde qui est plutôt une programmation d'ethnomusicologie, donc des versants traditionnels purs, donc des gens qu'on va faire venir de leur pays où ils sont plutôt des animateurs de fêtes de village, de mariage, d'enterrement et de formes très traditionnelles de la musique, qui parfois ne sont même pas connaisseurs d'une scène. Donc, ils n'ont jamais joué sur une scène comme celle sur laquelle on se trouve là, mais plutôt sur des scènes sur des places de village. Donc c'est une forme vraiment intéressante. Et on va jouer aussi du jazz dans sa version la plus contemporaine. Thomas a vu la semaine dernière, c'était oui, une dizaine de jours, l'Orchestre National de Jazz qui a interprété, qui a revisité des grands albums de l'histoire du rock ou de la musique classique. On a fait le Dark Side of the Moon de Pink Floyd, version jazz, c'était assez passionnant. Et on accueille la fine fleur du jazz français et européen essentiellement, qui vient en résidence sur une semaine interpréter des œuvres telles qu'ils ne les jouent jamais, c'est-à-dire on leur donne des cartes blanches et ils invitent les artistes qu'ils aiment à venir se produire avec eux et à faire plus que le bœuf. C'est vraiment un travail qui va assez loin. En fait, on les pousse à aller dans leur retranchement et à découvrir au sein de leur répertoire une nouvelle façon d'interpréter. C'est souvent assez chouette. On a au mois de novembre un tubiste fameux qui s'appelle Michel Godard, qui a invité des artistes de musique baroque à interpréter son jazz avec lui. Et ça va devenir assez intéressant. Et il va lui-même s'inviter à jouer du Monteverdi avec ses artistes baroques, mais avec ses instruments de jazz contemporain. Donc ça va donner des choses assez sympas, assez étonnantes. Et c'est une bonne entrée dans la maison pour ceux qui ne connaissent pas l'Opéra de Lyon. C'est une salle qui est dévergondée, qui est loin des clichés que chacun imagine, chacun a en tête quant à l'Opéra de Lyon ou à l'Opéra tout court. Et l'Opéra de Lyon lui-même, sa grande salle et sa grande scène pour les productions d'opéra et de ballet, comme je l'ai dit tout à l'heure, a une vision plutôt... pas décontracté, mais en tout cas plutôt accessible et loin des sentiers battus et des clichés rabâchés sur nos maisons. Voilà, donc je vous encourage à venir évidemment découvrir cette maison si vous ne la connaissez pas. Sachez, en toute modestie, que ça fait partie des maisons qui comptent sur la scène internationale au niveau lyrique et chorégraphique, que vous avez à Lyon la chance de voir des spectacles dans des conditions vraiment d'accessibilité rarement vues dans nos maisons. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez les passes culture ici à l'ENS, vous pouvez venir avec vos passes culture ou bénéficier de tarifs. Alors on n'est pas à 2 euros ou 3 euros comme chez vous, mais nous on peut vous accueillir pour 10 euros pour l'ensemble des spectacles produits par la maison, qu'ils soient à l'amphithéâtre, qu'ils soient du jazz, des musiques du monde, de la musique classique, de l'opéra ou du ballet. C'est notre prix d'accessibilité et qui est ouvert à tous et tout le temps. Donc profitez-en. Vous voyez des spectacles formidables pour une somme modique et des spectacles de grande qualité. Encore une fois, c'est une maison qui coproduit ses spectacles avec les plus grandes scènes. Donc les spectacles que vous voyez ici pour 10 euros, vous les voyez aussi à New York ou à Londres ou à Milan pour 100 fois plus. Voilà. Donc bienvenue à vous très prochainement, profitez-en. Et le cliché majeur de notre univers lyrique, c'est celui de l'inaccessible et du complet tout le temps. Évidemment, si je suis là pour en parler ce soir, c'est que c'est un cliché, que c'est faux et que chaque soir, vous pouvez accéder à un spectacle sans difficulté. Voilà. Donc on ne choisit pas forcément sa place quand on vient au dernier moment. Mais ce soir, le Macbeth de Verdi... je pense que les gens qui faisaient la queue tout à l'heure sont tous rentrés. Donc il n'y a pas de barrière, il ne faut pas hésiter, il faut tenter et goûter. Et goûter parfois, c'est adhérer. Voilà, en tout cas, je l'espère que vous en profiterez. Voilà, merci à vous.
Merci beaucoup. Juste rajouter sur l'amphithéâtre, qui est une salle que voilà, j'ai découverte et qui me touche particulièrement, que sa programmation change tous les mois. Donc on passe de l'amphi-jazz à l'amphi-monde et que les spectacles peuvent être parfois... très peu cher. Alors, je parle rarement de prix moi-même dans les émissions, mais j'avais pu vous signaler que, par exemple, effectivement, pour le spectacle Discovers de l'ONG, de l'Orchestre National du Jazz, les concerts étaient à 5 euros pour une formation qui est quand même pas n'importe quoi, c'est l'Orchestre National du Jazz. Il faut savoir aussi que les midis à l'amphithéâtre, parfois, il y a donc des programmations le midi, et quand c'est le cas, eh bien, c'est gratuit. Au mois d'octobre, j'avais pu le dire dans une émission, la programmation est à l'Amphimonde et les mercredis et les vendredis midi, c'est gratuit. Voilà. Donc dans cette soirée, on a essayé de vous donner avec en scène, en sortie et transistor, l'envie de pousser la porte des différentes salles de spectacle, de vous montrer qu'il y avait des choses très très différentes. Entre l'Opéra de Lyon, le Théâtre de Vénissieux, le Théâtre des Ateliers, le Théâtre des Marronniers, ici en Cantor, évidemment dans d'autres qui ne sont pas venus, je parle évidemment que de nos partenaires, mais que ça valait le coup de pousser la porte et de tenter l'expérience. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à cette soirée, je remercie évidemment nos invités de s'être déplacés, d'avoir fait cet honneur de venir ici. Et voilà, vous l'avez compris, avec En Spectateur, c'est pas juste des gens qui viennent parler de leur spectacle et qu'on ne revoit plus, c'est des gens avec qui on travaille et qui nous permettent de voir les spectacles et de construire ce lien et cette émission. Donc voilà, je voulais vous remercier vous et puis les remercier eux. Merci, bonsoir.